Aujourd'hui, j'accueille Denis Biette, auteur du livre « L'énigme des crânes de cristal » aux éditions Bookie Book. Bonjour Denis.
Bonjour Nicolas.
Peux-tu te présenter rapidement ?
Alors, je suis professeur des écoles, je suis vice-président du Cercle d'Histoire et d'Archéologie des Alpes-Maritimes et je suis aussi membre du Centre d'Analyse Zététique.
Tout comme moi. Alors Denis, qu'est-ce qui t'a motivé à t'intéresser à cette légende des crânes de cristal ?
Eh bien, la sortie du film de Spielberg, hein, Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Dans le même temps, j'ai découvert que dans notre région avait lieu tous les deux ans un festival international des crânes de cristal qui avait débuté en 2005. Du coup, je me suis rendu à celui de 2009. Et puis, dans la foulée, je me suis procuré le best-seller sur les crânes de cristal, à savoir le mystère des crânes de cristal de Chris Norton et Sherry Louise, publié en 1997. Un ouvrage, hélas, qui manque beaucoup de rigueur depuis que j'ai fait mes petites recherches personnelles.
En premier lieu, on peut se poser la question du matériau qui constitue ces crânes. Est-ce que c'est du pur cristal alors ?
Alors en fait, quand on parle de cristal, on parle de cristal de roche. C'est un minéral, c'est tout simplement une variété de quartz qui est incolore et translucide. Chimiquement parlant, c'est du dioxyde de silicium. Il faut dire que bon, les crânes sont des objets donc manufacturés, d'une taille à peu près équivalente à celle d'un crâne humain, ou un petit peu moins. C'est déjà en soi un élément intéressant parce que le cristal de roche est très difficile à tailler.
Et il y a des crânes célèbres, celui de Michel Hedges, du Quai Branly, du British Museum. Que sait-on de factuel à propos de ces crânes ? Qu'est-ce que relève la légende ?
Ah, la légende. Alors d'abord, il faut peut-être signaler qu'on prête à ces crânes de cristal toutes sortes de pouvoirs extraordinaires. Hein. Ce seraient des réceptacles d'informations extraordinaires pour l'humanité. Des manifestations paranormales se produiraient à leur voisinage. On pourrait entendre des sons, visualiser des images. Ils seraient capables de prédire l'avenir, de visualiser le passé. Ils auraient des pouvoirs de guérison et on ressentirait des énergies en leur présence.
Certains les qualifient d'immenses ordinateurs même, non ? On peut se connecter.
Exactement. Une médium canadienne a même dit que c'était finalement comme un ordinateur, mais qu'on n'avait pas besoin de clavier. En fait, pour ce qui est de la légende, sur les prospectus qui ont annoncé les premières éditions de notre festival international des crânes de cristal, ici dans les Alpes-Maritimes, il était clairement fait allusion à cette fameuse légende de Maya, dont les médias se sont d'ailleurs fait l'écho au moment de la soi-disant fin du monde du 21 décembre 2012. Cette légende, il en existe plusieurs variantes sur Internet. Elle fait référence à ces crânes de cristal comme étant des objets d'essence extraterrestre qui auraient ensuite transité, selon certains, par l'Atlantide, puis ensuite par diverses civilisations précolombiennes, comme par exemple les Mayas ou les Aztèques.
Et il y a eu des expériences scientifiques là ces dernières années, parce qu'au XXe siècle, à ma connaissance, il n'y en a pas eu, mais là, ces dernières années, et ça a révélé quoi ces expériences ?
Alors avant d'en venir aux expériences, précisons qu'en matière de Maya, le seul crâne en réalité que l'on ait jamais vraiment connecté au Maya, c'est le plus célèbre. C'est celui qu'on appelle le crâne de Michel Hedges, du nom de son prétendu découvreur. C'est celui-là qui a été le plus médiatisé et qui a suscité au départ un véritable engouement pour les crânes de cristal à partir des années 1970, hein, puisque le premier livre consacré aux crânes de cristal est sorti en 1973. Ce crâne, effectivement, on l'a dit, a avoir été découvert sur un site maya, celui de Lubantum, dans le Belize, c'est-à-dire l'ex-Honduras britannique. On l'aurait découvert sous un hôtel au sommet de l'une des pyramides du site. Son existence n'a été révélée que dans les années 50 par Frédéric Albert Mitchell, Hedges. Son surnom, Skull of Doom, le crâne de la destinée funeste, lui vient du fait qu'il avait la réputation de pouvoir provoquer la mort quand on l'invoquait, ou quand on se moquait un petit peu trop de lui. Depuis, deux autres crânes célèbres sont connus, ont intégré des musées depuis le dernier quart du 19e siècle. Il s'agit du crâne de Paris et de celui du British Museum. Mais ceux-là ont toujours été présentés jusque dans les années 90 comme étant possiblement aztèques, et non pas bien sûr mayas.
Oui, tu disais que c'était le crâne du destin funeste, mais de ce que je sais, c'était sa fille qui l'aurait trouvé. Et puis quand son père est mort et qu'il lui est revenu, il est devenu le crâne de l'amour. La légende semble se transformer au fil des générations.
Alors, le soi-disant découvreur n'en avait que très peu parlé dans son livre. Il disait d'ailleurs ne pas vouloir s'étaler sur la manière dont il en était devenu le propriétaire. Effectivement, c'est sa fille adoptive qui, après sa mort, a recueilli le fameux crâne et en a fait, un développement médiatique, puisqu'elle a fait des tournées avec et qu'elle a raconté toute l'histoire selon laquelle c'était elle, en fait, qui avait découvert le crâne sur ce site de Lubantum.
Et au niveau de la datation de ces crânes, est-ce qu'on a des techniques qui permettent aujourd'hui de savoir quand est-ce qu'ils ont été taillés ?
Alors, lorsque Frédéric Albert Michalegis a présenté son crâne, et lui, il a évoqué une datation de 3600 ans. Dans le livre, le premier livre de 1973 qui a été consacré au crâne de cristal, on allait jusqu'à taquiner les 12 000 ans. En réalité, on s'est penché véritablement scientifiquement sur les crânes de cristal depuis peu. Donc, il y a eu en 1996 une étude conjointe au British Museum qui s'est intéressée à deux crânes, celui qui existe au British Museum et celui qui a échu à la Smithsonian Institution à Washington. C'est un crâne de cristal très gros, puisqu'il fait presque 14 kilos, il est beaucoup plus gros qu'un crâne humain, et il était arrivé anonymement par la poste. On s'est penché sur ces deux crânes, on les a étudiés en les comparant avec un artefact véritablement précolombien en cristal de roche, ce qui a permis donc de faire une comparaison au niveau des traces d'usure, enfin les traces laissées par les éventuels outils qui ont été utilisés.
C'est intéressant, ça veut dire qu'il y avait quand même les Aztèques savaient travailler le cristal avant l'arrivée de Christophe Colomb.
Alors il est clair que les populations précolombiennes, comme par exemple les Aztèques et surtout les Mixtecs, qui sont un peu des voisins si j'ose dire, ont développé un artisanat en cristal de roche, mais très simple. Il s'agit d'artefacts beaucoup moins complexes que les crânes de cristal. Alors ceux-là, ils sont de taille aussi beaucoup plus petite. On dispose par exemple d'un gobelet, un gobelet Mixtec. On a aussi un petit masque anthropomorphe précolombien. Et ceux-là donc ont été utilisés pour qu'on puisse les comparer avec les crânes entre guillemets de cristal qui font débat. Alors sur les objets véritablement précolombiens, les analyses optiques ont permis de découvrir des traces d'usure qui sont tout à fait compatibles avec un outillage très fruste. Par contre, pour nos gentils petits crânes de cristal plus médiatisés, là on a découvert des traces mettant en œuvre donc des outils modernes comme des meules rotatives, c'est-à-dire un outillage qui n'a plus rien à voir avec le monde précolombien. Donc ces crânes-là sont beaucoup plus récents.
Et pour la datation, on ne peut pas faire de datation au carbone 14 pour ces crânes ?
Alors on ne peut pas utiliser le carbone 14 puisque le cristal de roche ne possède pas d'atome de carbone. Par contre, le musée du Quai Branly, qui possède lui aussi un crâne de cristal, a mis en œuvre une étude en 2007 menée sur deux fronts. Alors de la même façon qu'au British Museum en 1996, ils ont comparé les traces de stries laissées par les outils sur leur crâne et sur un petit objet précolombien de comparaison. Donc ça a donné le même résultat, à savoir que le crâne de Paris, le crâne qui est aujourd'hui au musée du Quai Branly, est tout à fait moderne. Il comporte des stries montrant qu'on a utilisé là aussi sans doute des meules rotatives, donc possiblement un crâne datant par exemple du 19e siècle. Puis ce qui est beaucoup plus intéressant, qui n'avait pas été encore fait, c'est que on a procédé aussi à une étude comparative mettant en œuvre donc le crâne de Paris, le petit masque anthropomorphe en cristal de roche et un pendentif de chandelier qui lui est parfaitement daté de 1740. Et on a utilisé une nouvelle méthode de datation qui s'appelle l'hydratation du quartz, qui permet d'évaluer la pénétration de l'humidité dans les objets manufacturés en cristal de roche à partir du moment où ils ont été travaillés. Donc on a comparé ce que ça donnait pour les trois artefacts. Et là, on s'aperçoit que le petit masque anthropomorphe précolombien, c'est celui qui apparaît comme étant le plus ancien. Le pendentif de chandelier de 1740 arrive en deuxième. Et hélas, le crâne de Paris arrive en dernier, c'est-à-dire qu'il est forcément plus récent que 1740. Donc on n'a pas une datation absolue, mais on a une datation relative qui nous le cale après au moins 1740. Donc il y a de fortes probabilités pour qu'on le retrouve fabriqué au cours du 19e siècle.
Ouais. Et au niveau du traçage de ces objets, est-ce qu'il y a des documents, est-ce qu'on arrive à retrouver un petit peu le chemin qu'ils ont parcouru, est-ce qu'ils ont été vendus par des vendeurs d'art, des choses comme ça?
Alors tous les crânes qui sont dans les musées, que ce soit les crânes correspondant presque à des crânes humains comme celui du Quai Branly ou celui du British Museum, sont des crânes qui ont été acquis auprès d'un marchand d'antiquités qui s'appelle Eugène Bauban. Il existe des tout petits crânes aussi qui eux ont été aussi achetés auprès de marchands d'antiquités. Autrement dit, tous les crânes qui sont exposés dans les musées sont des crânes qui ne proviennent pas de fouilles. Il ne nous reste plus que le crâne de Michalegis qui est censé avoir été découvert sur un site maya. Alors celui-là, pour le coup, les documents ont parlé, puisqu'un collègue sceptique américain qui s'appelle John Nickel a mené une petite enquête dans les années 80 et il a découvert que le crâne de Michalegis appartenait en 1936, puisqu'on en a la photo dans un article d'une revue d'anthropologie, il appartenait à un certain Sidney Burney, qui était un marchand d'antiquités. et qui en était le propriétaire et qui avait prêté son crâne pour étude, avec une étude comparative avec celui du British Museum. Donc pas de Mitchell Hedges comme étant propriétaire à cette époque. C'est fâcheux parce que le crâne était censé avoir été découvert dans les années 1920. D'un autre côté, Johnny Cal a poursuivi l'enquête et est tombé sur un catalogue de Sotheby's, hein, donc une vente aux enchères qui avait eu lieu à Londres en 1943. Et là, on s'aperçoit que le même Sidney Burney avait mis son crâne de cristal en vente. Et devinez quoi ? C'est un certain Frédéric Albert Mitchell Hedges qui l'avait acquis donc en 1943.
Donc il n'a pas pu être découvert par sa fille dans les années 20.
Hélas non. Et on a même vu circuler à un moment donné une lettre de Frédéric Albert Mitchell Hedges à son frère, lui signalant qu'il venait d'acquérir, justement, c'est dit en toutes lettres, le crâne de la collection Sidney Burney. Sauf qu'après quelques années auprès des médias, il avait quelque peu modifié son histoire.
Et alors, est-il vrai, comme dans le film d'Indiana Jones, qu'une fois réunis, ces 13 crânes peuvent engendrer la fin du monde ?
Alors, on les a sollicités pour éviter notre fin du monde du 21 décembre 2012. Ça n'a pas eu un très grand... Voilà, sauf que ça n'a pas eu un très grand succès. Vous avez remarqué que, par ailleurs, ils n'ont pas été réunis et que, pour autant, nous sommes toujours là. Toujours est-il que cette légende maya, il faut en dire deux mots. On la voit circuler, on en parle, mais personne, en fait, s'est penché sur l'étude de cette fameuse légende. Et quand on se penche sur cette fameuse légende, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une création tout à fait moderne. On n'en trouve absolument pas de traces avant, on va dire, les années 1980, voire même le début des années 1990. Donc manifestement, c'est une création tout à fait contemporaine. Elle ne provient pas des Mayas anciens, elle provient apparemment d'un certain nombre de chamans, de pseudo-gourous, plutôt d'ailleurs du côté de l'Amérique du Nord, dans une espèce de fatras confus, et ça a été récupéré ensuite sans que personne ne se soit posé la question de son origine.
J'aime beaucoup cette histoire de crâne déformé à la fin de ton livre aussi. C'est tellement révélateur du fait que certains sont prêts à croire tout et n'importe quoi plutôt que d'affronter une réalité qu'ils doivent certainement juger trop banale.
Alors effectivement, là, on a un crâne qui est très méconnu des grands amateurs des crânes de cristal et qui s'appelle le crâne de Creston ou encore de la San Luis Valley. Et c'est un peu ce que j'appelle, moi, le crâne pédagogique, parce que dans le dossier des crânes de cristal, nombreuses sont les personnes qui témoignent de phénomènes étranges en relation avec les crânes. On a par exemple un certain nombre de témoins qui nous disent avoir ressenti distinctement une énergie émanant de ces crânes. Il se trouve que ce crâne de Creston va se révéler un excellent guide pédagogique pour tenter de comprendre comment les pouvoirs en fait viennent au crâne. Alors pour la petite histoire, il a été découvert en 1995 au Colorado par une propriétaire de ranch. C'est pas un très gros crâne, hein. Il fait 1,36 kg et il a une hauteur de 15 cm à peu près. Il a une sale gueule parce que son visage est déformé. Et il se trouve que l'enquête a été menée par un fervent adepte du paranormal de la région, un certain Christopher O'Brien, qui a rapidement signalé un certain nombre de phénomènes étranges qui se sont produits en sa présence. Le crâne se serait opposé à ce qu'on le déplace, il y aurait eu éclatement de pneus, des incidents corporels, il aurait été à l'origine d'apparitions d'odeurs, notamment des parfums de femmes, il aurait provoqué l'arrêt de la caméra de ce Christopher O'Brien. Il se trouve que la nouvelle propriétaire, tout au moins, du crâne, avide d'informations, a eu la bonne idée, pour s'informer, d'aller voir un médium. Le fameux médium lui a expliqué que l'objet était très ancien, qu'il n'était pas fait de main d'homme et qu'il n'était même pas originaire de notre planète. La propriétaire a cru ensuite que c'était une très bonne idée d'aller la confier à une amie qui tenait une librairie New Age, près de Creston. Là, évidemment, le crâne a suscité la curiosité. Beaucoup de personnes qui sont venues là ont témoigné avoir ressenti une énergie, évidemment. La boutique, évidemment, en a profité pour vendre des crânes de cristal. Le crâne, ensuite, a été présenté à des congrès sur les ovnis. Il faut dire que Christopher O'Brien, c'est un amateur du paranormal, mais aussi des ovnis. Donc, on l'a intégré dans la sphère extraterrestre. Là aussi, lors de ces congrès, beaucoup de personnes disent avoir ressenti des énergies émanant du crâne. Le journal local a eu la bonne idée, en 1996, de se faire l'écho de tous ces phénomènes inexplicables. Ce qui fait qu'un collectionneur du paranormal avait même proposé de l'acheter pour 20 000 $. Un autre enquêteur du paranormal a passé 8 jours auprès du crâne et a précisé qu'il avait pu communiquer avec les esprits qu'il avait modelés. Il a reçu des messages provenant du fameux continent de la Lémurie. Et puis la solution du mystère est tombée fin 1996. Un certain Brad Chadez, qui est un artisan du verre de Denver, s'est aperçu qu'on parlait de quelque chose qu'il connaissait bien, puisque pour le festival des jours du mort à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, Il avait réalisé plusieurs crânes en verre moulé. C'était même pas du cristal de roche. Et en fait, le fameux crâne dont on parlait, c'était un rebut de fabrication. Je vous rappelle qu'il avait une gueule cassée, il était tout déformé. Et il l'avait refilé à ses parents qui tenaient le ranch voisin de celui dont la propriétaire avait découvert le ranch. Donc là, évidemment, notre enquêteur Christopher O'Brien, qui a voulu nous dire deux mots un petit peu plus tard, en 1999, sur la fin de l'histoire, a rebondi en expliquant que si certaines personnes estiment qu'un objet quelconque peut être magique, alors évidemment, cet objet peut acquérir, on va dire, une certaine magie. Je le trouve un petit peu gonflé pour le coup.
Un raisonnement voilà. A posteriori.
En tout cas, pour conclure, on peut peut-être dire que ce crâne de cristal, qui n'en était même pas un, puisqu'il était en verre fondu, prouve que tout objet considéré comme extraordinaire, même s'il est d'une banalité en réalité consternante, bah finalement il peut être investi de pouvoir et d'énergie par des personnes, on pourrait dire peut-être un peu crédules, sans doute déjà enclines à croire au surnaturel, et finalement qui inconsciemment projettent leurs fantasmes et transforment leurs illusions en témoignages qui se veulent ensuite fiables.
Ouais, c'est vraiment incroyable ces histoires de crânes de cristal. J'ai personnellement visité le British Museum à Londres récemment et la légende figurant sur le crâne de cristal qui s'y trouve explique bien maintenant que ce crâne n'est absolument pas précolombien. Comment expliquer qu'autant de gens croient encore que ces artefacts puissent être anciens ?
Je crois que c'est le désir de croire. Ça se retrouve dans nombre d'autres dossiers du paranormal. Il est vrai que les musées ont fait quand même l'effort maintenant de modifier leur signalétique, que ce soit au British Museum ou au musée du Quai Branly. Il n'en demeure pas moins que ce sont des objets quand même magnifiques. Il reste à rechercher leur véritable origine, donc 19e siècle, on cherche un petit peu d'où ils pourraient provenir, il y aurait une piste du côté de l'Allemagne, mais enfin là il y a encore certainement encore à découvrir.
Eh bien merci beaucoup Denis pour nous avoir éclairés.